La semaine du 12 février, ce n'est pas seulement la semaine de la Saint-Valentin. C'est aussi celle durant laquelle on met un coup de projecteur sur les discriminations, toutes les discriminations. Et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on va poser notre loupe sur une discrimination que tout le monde connaît, le sexisme. Le sexisme, c'est comme cette poussière dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ça s'immisce partout, tant et si bien qu'on ne le voit même plus. Et récemment, l'une de ces facettes que je n'avais pas encore remarquée m'a sauté aux yeux et j'ai eu envie d'en parler dans cet épisode. La femme n'a pas la même place, la même légitimité que l'homme dans l'espace public, et notamment dans les villes. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Parce que moi, en tant que femme, je ne m'en étais même pas rendu compte. Jusqu'à un matin qui sera le point de départ de notre épisode.
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Terminus sexisme, un épisode signé Marine Lebeil.
Nous sommes à Strasbourg. Je suis dans le tramway, il est 8h30 du matin, heure de pointe. Il y a du monde, alors je reste debout. Évidemment, je suis sur mes gardes, je vérifie qu'aucun frotteur ne vienne rôder près de moi. Mais trop occupée à jeter des regards en arrière, je ne m'aperçois pas que le tram s'apprête à freiner fort. Quand la secousse arrive, je lève le bras, par réflexe, pour attraper la barre horizontale. Mince, elle est trop haute. Vite, sur la pointe des pieds, oula, pas très stable tout ça. Le tram freine et je me fais emporter vers l'avant.
Pardon, excusez-moi.
Bon, tomber dans le tramway, c'est arrivé à tout le monde, non ? Je me relève, tout va bien. Mais je jette un regard noir à cette barre beaucoup trop haute. Pourtant, je ne suis pas si petite. Je fais 1m63. Un centimètre de plus que la taille moyenne des Françaises. Je regarde autour de moi, ah oui, comme par hasard, les mains accrochées à la barre horizontale sont toutes masculines. Aucune femme ne l'atteint, ou alors difficilement. C'est marrant ça. En fait non, pas trop. Il y a plus de femmes que d'hommes dans ce wagon, et on est toutes déséquilibrées parce que quelqu'un a décidé de placer la barre trop haut. Attends, mais maintenant que j'y pense, il n'y a pas que dans le tramway que les femmes sont désavantagées en ville. Premier arrêt. Parc de la Citadelle.
Ouais. Hop. Ouais.
Il est sympa ce parc, calme et vert, dans le quartier de l'Esplanade. Oh. Il y a même un city, ces petits stades en béton où les garçons peuvent jouer au foot ou au basket. Il y a aussi des appareils pour qu'ils fassent de la musculation en plein air. Bref, un parc équipé pour que tout le monde s'amuse, enfin surtout les hommes.
Wow. Qui sont les endroits où on peut faire des tractions sur des barres et des choses comme ça.
Chris Blash est anthropologue urbaine.
Où là s'exprime la performance de la virilité, ce qu'on appelle la performativité de la virilité en fait. Et où on ne peut être efficace que si on enlève son t-shirt, qu'on montre ses muscles, etc. Qui crée des zones de non-droit en définitive. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas y aller. Ça veut dire simplement qu'il est difficile d'y aller parce qu'elles sont occupées par les hommes de manière majoritaire.
Chris Blash, elle a cofondé Genre et Ville, un cercle de réflexion composé d'urbanistes, de sociologues et d'architectes qui pointent les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes dans la ville.
Il faut reprendre un peu l'histoire et voir comment les femmes ont été évincées de l'espace public déjà pour comprendre pourquoi la ville peut favoriser l'espace pour les hommes.
On rembobine donc. Mais pas trop non plus, car si pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, les femmes étaient présentes dans l'espace public, elles ont commencé à y perdre leur place il n'y a pas si longtemps. Yves Rébeau est chercheur en géographie du genre, chargé de mission égalité hommes-femmes à l'université Bordeaux-Montaigne. Il raconte cette histoire dans une vidéo sur YouTube de la librairie Mola.
Si si on prend l'histoire récente...
Depuis, mettons, 2-3 siècles, eh bien, effectivement, il y a ce partage de l'espace avec un espace privé qui est dévolu aux femmes, où elles sont censées s'occuper des tâches ménagères, des enfants, de l'approvisionnement du ménage. Et puis, un espace public, hein, qui est un espace public au sens pratique, hein, qui est l'espace de la ville, l'extérieur, et puis au sens figuré, l'espace public politique,
qui est le domaine des hommes.
La ville s'est donc construite sur l'image binaire de la société. Les hommes en ville et les femmes à la maison. Résultat, on vit aujourd'hui dans des villes faites par les hommes et pour les hommes. Pourtant, exclure les femmes de l'espace public n'était pas une volonté première des hommes. Mais cette image binaire est tellement ancrée dans la société que personne ne s'est aperçu de ce déséquilibre.
C'est un impensé, mais c'est un impensé aussi au niveau urbanistique. Le mobilier en lui-même, il n'est pas genré, il n'est pas sexué, mais c'est l'usage qui en est fait qui le rend sexué, en fait. C'est le fait d'être légitime ou non d'utiliser un banc qui va le rendre sexué. Moi, je cite souvent l'exemple d'hommes qu'on peut voir dans l'espace public sur les bancs qui sont tout à fait détendus, les bras sur les dossiers, jambes écartées, le nez au vent, et qui peuvent rester des heures comme ça. Et le fait que les femmes se l'interdisent ou qu'on leur interdise par des moyens qui sont des injonctions à bien se comporter, à faire attention à la façon dont on s'habille, à la façon dont on se tient, à ne pas aller dans l'espace public à n'importe quelle heure, qui fait qu'on ne va pas être légitime dans l'espace public et qu'on ne va pas utiliser ce mobilier légitimement. Il y a une question qui est une question d'urbanisme, mais il s'agit aussi d'une question sociétale qui fait que les femmes ne se sentent pas légitimes dans l'espace public et qu'elles subissent des rappels à l'ordre à travers soit un contrôle social, hein, soit par de l'agression sexuelle ou, sans que ça aille jusqu'à l'agression, par du harcèlement.
Des rappels à l'ordre qu'on subit au quotidien et régulièrement dans les transports en commun. D'ailleurs, et si on descendait de ce tramway pour rejoindre un moyen de transport plus sûr et plus pratique ? À Strasbourg, on adore se déplacer à vélo. Le vélo, c'est chouette, c'est écologique, ça nous fait faire de l'exercice, on prend l'air. Bref, il n'y a pas meilleur moyen de transport. Bon, sauf quand il faut aller faire les courses. Il faut avoir un bon sac à dos ou faire plusieurs allers-retours. Ah, et puis aussi pour emmener les enfants à l'école. Et c'est pire si on a plusieurs enfants, et ça devient carrément mission impossible si chacun est scolarisé dans un établissement différent. Heureusement, les hommes ne sont pas tant concernés par ces problèmes, car les femmes consacrent presque deux fois plus de temps à ces tâches domestiques, selon l'Observatoire des inégalités. Ce sont donc elles qui s'organisent pour tenter de marier le vélo avec la vie familiale. J'ai demandé à Christelle Vider, l'adjointe à la mairie de Strasbourg chargée de la politique en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre, ce qu'elle pense de tout ça.
Pour l'accompagnement à l'école, alors parfois c'est critiqué comme une approche essentialiste, c'est-à-dire vous pensez l'espace public en partant du principe que les femmes vont aller sur le chemin de l'école plus que les hommes ou vont être plus à poussette que les hommes. Bon, c'est aussi la réalité pour l'instant. 70 à 75% des accompagnements, qu'il s'agisse d'accompagnements d'enfants ou de personnes âgées, sont faits par les femmes. Donc ça, c'est une réalité. Alors, pour l'école, la plupart du temps, ça se pratique à pied. Pour les courses, on peut fixer un petit chariot, ça reste possible. Bon, l'idéal étant aussi que les choses soient mieux équilibrées entre les femmes et les hommes. Ça va de soi.
Pas vraiment de solution miracle donc. Le vélo, c'est pas si pratique, le tramway, c'est pas très adapté, mais tous ces transports restent au moins plus sûrs pour les femmes que la marche à pied, surtout quand la nuit commence à tomber. On connaît toute l'angoisse de passer par une rue peu ou pas éclairée la nuit, nos clés glissées entre nos doigts comme un point américain improvisé, juste au cas où. À Strasbourg, la mairie a décidé de couper l'éclairage public entre 1h et 5h du matin pour des raisons écologiques. Une décision qui impacte le quotidien des femmes, et Christelle Vider le sait.
Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre, extrêmement débattue au sein de notre équipe, hein, où les enjeux écolos et les enjeux féministes se sont heurtés comme jamais. pour l'instant, et ça a été prouvé, de nombreuses enquêtes ont été menées dans d'autres grandes villes qui ont fait ce choix, on n'arrive pas à établir de lien avec davantage d'agressions. En revanche, ce qui est certain, c'est que les femmes, les jeunes femmes, donc qui sortent entre 1h et 5h du matin, ou pour des raisons professionnelles, et on pense au secteur hôtelier, au secteur du soin, au secteur hospitalier, et pas seulement les gens qui font la fête, c'est ce que je voulais dire, pour ces personnes-là, effectivement, ça peut amener à changer la façon de se déplacer et, en effet, enlever un petit peu de liberté d'action, d'agir. Et ça peut représenter, effectivement, une charge mentale.
Pourtant, des solutions, il y en a. Il y a même des actions concrètes qui ont été menées dans différents coins du monde. À New York, par exemple, l'aéroport a ouvert il y a quelques années une salle spécialement dédiée à l'allaitement. À Hambourg, en Allemagne, certains Vélib sont maintenant assortis d'un porte-bébé. Bon, à Strasbourg, toujours pas de porte-bébé, mais la mairie a mis en place l'année dernière un budget sensible au genre, comme le font d'autres villes en France. Il consiste à équilibrer le budget d'une ville en prenant en compte qui, entre les femmes et les hommes, vont bénéficier des investissements. Et ce concept, il existe en réalité depuis longtemps. La première fois qu'on en parle, c'est en 1997 aux Nations Unies. Mais ce n'est qu'en 2021 que Lyon et Rennes sont les premières villes françaises à se lancer, suivies en 2023 par Strasbourg.
Alors la budgétisation sensible aux gens, c'est un terme qui est peut-être un peu flou, on peut aussi l'appeler budget pour l'égalité. Ça consiste à analyser nos dépenses de façon à ce que, et nos politiques publiques en général, de façon à ce qu'elles aient un impact positif sur l'égalité femmes-hommes ou à minima qu'elles aient un impact neutre.
C'est seulement quand on commence à se poser la question qu'on peut commencer à apporter des réponses concrètes.
Chris Blage, anthropologue urbaine.
C'est d'abord, en fait, se poser la question de comment on fait la ville pour qu'on réfléchisse, tant d'argent dépensé, vers qui est-il destiné quand on fait un stade de foot qui coûte, j'en sais rien, 50 millions d'euros. Mais en fait, il est payé par 100% des contribuables, c'est-à-dire une majorité de femmes, puisqu'on est à 52% de la population, mais c'est 95% d'hommes qui vont l'utiliser, donc il y a une inégalité.
Alors certes, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais se rendre compte qu'il y a un problème, c'est déjà un grand pas et une porte ouverte à la recherche de solutions.
Sociétalement, d'interroger pourquoi les femmes ne vont pas dans l'espace public, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont y rester, organiser le mobilier différemment, travailler sur les ambiances, travailler sur les lumières, travailler sur la façon dont le mobilier est positionné pour qu'elles s'y sentent bien, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut travailler.
Et quant à la barre du tram, Christelle Wider m'a promis qu'elle en toucherait deux mots à la compagnie de transport en commun strasbourgeoise.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Marine Lebeg en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.